franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré.
Lundi, comment pêche-t-on les virus dans les grandes profondeurs océanes avec Claire Gélin, microbiologiste et virologiste.
C'est-à-dire qu'il faut un équipement, hein, des navires océanographiques équipés de sous-marins comme le Nautile, habités ou non habités, qui vont être pilotés depuis le bord du bateau et donc au cours de plongées qui vont durer quelques heures, 6 heures, 7 heures au fond. Donc on va prélever soit des morceaux de cheminées hydrothermales qui sont des structures polymétalliques qui ont précipité au contact de l'eau de mer puisqu'il y a un fluide très chaud qui va sortir et qui va précipiter au contact de l'eau de mer qui est à 2-3 degrés en profondeur. Donc on peut prélever ces échantillons, ces cheminées hydrothermales. On peut également déposer des surfaces que l'on veut, qui doivent être colonisées au cours d'un certain temps. On fait des mesures de température également.
Qu'est-ce que vous essayez de comprendre alors lorsque vous allez pêcher vos virus dans les milieux les plus profonds ?
Quand on va pêcher les virus, déjà on essayait de voir qui est présent. Déjà, est-ce qu'il y en a ?
Il y a une diversité importante ou pas ?
Il y a une diversité qui semble importante, en tout cas en termes de morphologie déjà. On est loin du virus que, si je demande par exemple de dessiner un virus, on a un peu le virus tête hexagonale avec une queue et des fibres caudales, un peu comme une araignée. Ça, ce sont les virus de bactéries, ou je devrais parler aussi de bactériophages, qui mangent les bactéries. Et au niveau de ces environnements extrêmes, on peut retrouver des virus avec cette morphologie-là, dite classique, mais on va retrouver également des morphologies extraordinaires qui ne sont pas retrouvées au niveau des autres domaines de la vie. Par exemple, chez les archées, qui se développent à haute température, hyperthermophiles, donc ils vont se développer, les archées ce sont des micro-organismes qui se développent hyperthermophiles, c'est-à-dire qu'ils vont se développer à une température supérieure à 80 degrés, et bien là il va y avoir des virus avec des formes tout à fait particulières, en forme de citron, qu'on ne va pas retrouver ni dans le domaine eucaryote, c'est-à-dire les virus qui nous infectent nous, ou les végétaux, ni dans le domaine bactérien. Donc il y a vraiment une diversité qui semble particulière pour ces archées, je dis bien hyperthermophiles, puisqu'on a des archées mésophiles, par exemple dans nos intestins, on a des archées méthanogènes, où là, la diversité virale est plus proche de ce qu'on peut connaître par ailleurs.
Mardi, accro à la course à pied, les souris aussi, avec Martine Segalen et le docteur François Carré.
Sur les effets corporels, je ne parlerai pas de la course à pied seulement en termes de traumatologie possible, mais plutôt tout ce qu'on raconte maintenant sur les endomorphines,
les bienfaits. On va en parler aussi, bien sûr.
Parce qu'il y a des résultats de certaines expériences récentes sur des souris coureuses qui sont très intéressantes.
On a mis des baskets à des souris et on les a fait courir.
Non, on les fait courir dans des espèces de cages et on s'aperçoit que celles qui ont couru plus que les autres présentent des taux supérieurs d'endocannabinoïdes.
Ah tiens, c'est comme si on fumait un petit pétard.
Exactement, et donc ce ne sont pas des endomorphines, un miton, mais un autre nez. La course agit comme le cannabis, c'est bon à savoir.
François Carré, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut en tirer des conclusions, vu que ça se passe chez la souris ?
Alors, ce qui est intéressant dans ce que dit Madame Segalen aussi, c'est que ça prouve la course à pied a été très étudiée. C'est pour ça qu'on a tant de données scientifiques, parce que c'est très simple, la course à pied. Les souris, on les met dans des roues, elles courent par plaisir. Et ce qui est amusant, entre parenthèses, c'est qu'il y en a qui courent et d'autres qui courent moins. C'est un peu comme chez les hommes, en fait. Tout le monde, toutes les souris n'aiment pas courir. Et effectivement, on a vu, c'était ce qu'on appelait un petit peu les endorphines à une époque. Alors maintenant, on les rapproche des cannabinoïdes, pardon.
Oui.
Et c'est vrai. Alors, en fait, en deux mots, dès que vous faites un exercice physique, dont la course à pied, vous libérez une centaine de substances qu'on appelle des myokines, dont celles-ci. Celles-ci agissent au niveau du cerveau, mais il y en a qui vont agir au niveau du sucre qui va rentrer dans les cellules, du mauvais cholestérol, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on explique pourquoi l'activité physique peut à la fois prévenir la survenue d'un cancer du sein, mais aussi l'ostéoporose et d'un autre côté un infarctus du myocarde. Parce qu'il y a un grand nombre de substances qui vont diffuser dans l'organisme. Et c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau, mais que maintenant on comprend mieux.
Mercredi, comment se reconnecter à la nature avec Bernard Andrieux et Cynthia Fleury.
Oui, justement, il y a cet aspect aussi éducatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, une éducation à la cosmose, c'est aussi de s'apercevoir que il y a des modes de reconnexion possibles, hein, entre les corps et la nature, le corps et l'environnement, et que donc, finalement, les choses ne sont pas séparées.
Une éducation à la cosmose, c'est ça, hein. Oui, enfin, c'est faire corps, pour ceux qui nous retrouvent là,
oui, hein, c'est une éducation corps à faire corps. Non, mais je veux dire, au sens, on a développé quand même toute une sociologie de l'individualisme, en disant finalement, l'individu est seul, il doit combattre, il doit se performer, etc. Bon, on a critiqué ça, c'était nécessaire. Mais maintenant, on est quand même en position de pouvoir dire, allez, il y a des alternatives. Je veux dire, les modèles holistiques, l'écologie corporelle, tout ça, ça existe. Et donc, on peut reconnecter en essayant déjà de faire comprendre que le corps n'est pas séparé. On n'est pas séparé des autres, on n'est pas séparé de la nature, on n'est pas séparé de l'environnement, et que donc il faut penser effectivement qu'il y a des écosystèmes en nous, mais il y a aussi des écosystèmes avec les autres.
Il y a un couple de fermiers auditeurs qui nous envoie ce message. Nous élevons des chèvres et nous avons de nombreux visiteurs à la ferme. Nous percevons la souffrance des citadins, leur souffrance. Ils sont comme perdus. Ils ne savent plus se poser, écouter, apprécier, et ça nous rend très tristes.
Mais oui, mais parce que si vous voulez, on vit séparé, on vit clivé. Et à un moment donné, si vous voulez, ça nous rend malade, mais sans qu'on sache pourquoi. Mais parce que tout simplement, on oublie très souvent qu'il y a un corps. Hein, l'individu n'est pas simplement un événement abstrait, c'est aussi un événement abstrait. C'est très important, c'est sa liberté, etc. Mais son bien-être, c'est de comprendre comment il se nourrit des éléments de la relation avec le vivant, de la relation avec ses pairs. Et on a aujourd'hui, alors en plus, la science est arrivée pour nous montrer les bienfaits sur nos états émotionnels, que tout d'un coup, on n'est pas dans le compulsif. Pourquoi on est dans les addictions, les polyaddictions? Bah tiens, très souvent, c'est parce qu'il y a un oubli du corps derrière et qu'il y a un oubli d'un lien avec la nature qui va venir pacifier les tensions qui sont inhérentes au corps, les phénomènes d'angoisse, etc. Donc, c'est un grand lutte contre la dépression, etc. De toutes nos capacités cognitives, elles sont sans cesse aussi stimulées différemment par la nature, alors qu'on ne les stimule plus par tout un environnement comme ça, urbain. Donc, c'est différentes choses. J'en parlais de la santé, les maladies chroniques, etc.
La dépression, donc. Hein.
À la dépression, c'est clairement... on a quantité d'études là-dessus. Je ne parle même pas sur
les jardins thérapeutiques.
Les jardins thérapeutiques. Je ne parle même pas de la place du soin dans les hôpitaux, la place des jardins, de l'action environnementale maintenant dans les hôpitaux, tout ce qu'on appelle l'éco-formation, l'éco-somatique. Donc, c'est vraiment, c'est absolument nécessaire.
Jeudi, les travaux de l'IRCAM sur la spatialisation sonore avec Marcus Neusternig et Hugues Vinet.
La spatialisation, donc l'espace dans le son, ça va être vous connaissez la réverbération. Donc quand vous êtes dans une salle, il y a une forte influence de la salle sur ce que vous percevoir à la place où le spectateur percevoir. Donc la spatialisation sonore, typiquement, c'est l'objet dans l'espace. On peut déplacer une source virtuelle dans l'espace en utilisant, par exemple, un réseau de haut-parleurs périphériques autour du spectateur.
Donc ça, c'est la spatialisation. Et donc, vous travaillez beaucoup sur ce thème de recherche.
On travaille beaucoup sur ce thème de recherche, oui.
Et justement, en fait, l'avenir, c'est qu'on ne va plus produire uniquement en stéréo ou en 5.1, mais à des formats qui vont permettre de restituer auprès de l'auditeur toute la richesse spatiale du son.
Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer la radio France Inter version spatialisée, alors, du coup?
Alors, en fait, France Inter travaille déjà sur ces sujets-là.
Ah ben mince, alors, j'étais même pas au courant.
Avec nous.
Alors, racontez-nous, justement, comment on travaille en radio autour de ce thème.
Donc là, on travaille très concrètement dans un projet européen qui s'appelle Orpheus, qui nous permet de travailler avec la BBC, le broadcast en Allemagne, l'Institut Fraunhofer, etc., et plein d'autres partenaires. Et là, on s'intéresse au format objet. Donc, c'est-à-dire, on ne va pas envoyer le mix stéréo 5.1, etc. aux auditeurs. On va envoyer les objets sonores avec les attributs. Un attribut, ça peut être la position dans l'espace, l'orientation, la directivité. Et c'est le client ou le logiciel du client qui va mettre ça ou spatialiser ça comme scène sonore.
Mais concrètement, dans notre écoute de la radio, par exemple, ça pourrait changer quoi? Est-ce que ça nous donnera l'impression d'être vraiment au milieu du studio avec le journaliste et les invités?
On pourrait mettre le spectateur, l'auditeur, directement au milieu du studio. On peut envoyer nos trois voix comme objet sonore. C'est le spectateur qui pourrait éventuellement déplacer nous dans l'espace virtuel, changer les positions des trois sources sonores, ou supprimer une source sonore, ou monter le son d'une source sonore. Ouais. Donc, mais nous, on s'intéresse plutôt à la spatialisation. Donc,
Mais Hugues Vinet, qu'est-ce que ça va changer au fond ? Le but de ce travail, c'est quoi ? C'est de rendre les choses plus réelles encore ?
D'avoir un contenu plus riche, plus réaliste. C'est vraiment ça, puisque aujourd'hui, les formats de diffusion audiovisuelle, c'est des goulots d'étranglement en termes d'information. Et on veut démultiplier l'information qui est le contenu même du son et de la musique.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.